J'aimerais lire avec vous pour recommencer un passage du prophète Osée, chapitre 2, verset 16. Le peuple d'Israël est comparé à une femme qui a été infidèle à son mari, à Dieu. Et Dieu dit, c'est pourquoi voici je veux l'attirer et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accor comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta dans le pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, tu ne m'appelleras plus mon maître. Dieu nous conduit parfois dans le désert pour parler à notre cœur. J'ai vu de nombreuses personnes qui ont rencontré Dieu dans le deuil, dans la souffrance, dans l'échec, parfois sur un lit de mort, qui ont crié à l'Éternel dans la souffrance et qui ont été délivrés par Dieu. L'apôtre Jacques nous dit que si quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qu'il prie. Dieu nous appelle à chercher une relation avec lui à travers nos souffrances. Dans le sermon sur la montagne, il nous invite à avancer. Shurati, au lieu de traduire heureux, heureux les pauvres, heureux les simples en esprit, il dit en marche. En marche, c'est-à-dire notre pauvreté nous pousse vers celui qui nous donne les vraies richesses. Nos tristesses nous poussent vers celui qui est le consolateur. En marche. La souffrance, elle peut nous révolter, mais elle peut aussi nous pousser dans les bras de Dieu. J'ai vu des gens tout au fond de la détresse, de l'abîme, qui ont crié à Dieu. Et Dieu est intervenu dans leur vie. Le prophète Jérémie au chapitre 31 dit « Ils viennent en pleurant et je les conduis au milieu de leurs supplications, je les mène vers des torrents d'eau. » Ici Dieu dit qu'il veut amener son peuple dans le désert pour parler à son cœur. Le désert, c'est le lieu aussi de la souffrance, c'est le lieu de la solitude, de la sécheresse, c'est le lieu où on a soif. Et le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils n'ont pas soif de Dieu. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et des fleuves d'eau vive couleront de son cœur. Il parlait du Saint-Esprit que Dieu donne à celui qui croit. Hein. Et je crois que souvent, on n'a pas soif. Les gens ont soif de richesse, ils ont soif d'alcool, ils ont soif de choses extraordinaires, mais ils n'ont pas soif de Dieu. Si nous avons soif de Dieu, alors Dieu promet qu'il peut changer le lieu de la solitude en le lieu de la relation, le lieu de la rencontre. Le désert, c'est souvent un lieu où Dieu rencontre les hommes dans la Bible. Quand nous sommes seuls et au bout de nos ressources et que nous crions à Dieu, alors Dieu peut nous aider. Mon père, avant de mourir, nous avait raconté qu'il avait été encouragé dans sa vie spirituelle par l'histoire de Noé. Parce que quand on est sur son lit de mort, on ne peut plus diriger sa barque. Et Noé n'avait pas de rame pour ramer. Il n'avait pas de voile dans l'arche. Dieu avait fermé la porte. Et parfois on est dans des situations, si vous êtes dans un trouble mental quel qu'il soit, où vous sentez complètement emprisonné. Mais ce qui l'a encouragé, c'est que dans l'arche il y avait une lucarne qui regardait vers le ciel. Je trouve que ça c'est assez beau. Il y a toujours une espérance du côté de Dieu. Un Éthiopien ne peut pas changer la couleur de sa peau, c'est ce que dit Jérémie. Mais Dieu peut nous changer. Si nous sommes accoutumés au mal, à la drogue, à toutes sortes de choses, nous ne pouvons pas nous changer tout seuls. On a besoin de l'aide des autres et de l'aide de Dieu. Et Dieu est capable de changer la vallée des larmes, la vallée de Baca, en un lieu plein de sources et de bénédictions. Il peut faire jaillir des fleuves d'eau vive dans le désert. La vallée d'accord dont il est parlé ici dans Osée, ça veut dire la vallée du trouble. C'était la vallée de la lapidation, la vallée où il y avait eu, à cause de la convoitise de l'homme, il y avait eu une lapidation d'un homme. Et cette vallée du trouble peut devenir une porte d'espérance. Quand on est dans le trouble, dans la sécheresse, alors il faut aussi regarder à Dieu. La vallée de l'ombre de la mort devient le lieu de la présence sécurisante du bon berger. Je crois qu'on a vraiment besoin de réaliser que on ne peut pas tout régler soi-même, on ne peut pas se sauver soi-même par ses larmes, par ses efforts. C'est la grâce de Dieu qui sauve. C'est Dieu qui peut transformer aussi notre cœur, nous libérer du péché. C'est l'Esprit de Dieu qui fait cela. C'est pas nos efforts. Il est dit dans l'Épître aux Romains au chapitre 8 que c'est l'Esprit de vie en Jésus-Christ qui m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Nous sommes soumis à cette loi du péché et de la mort. Tous sont péchés, tous sont égarés, tous sont privés de la gloire de Dieu, mais c'est l'Esprit de Dieu qui peut nous faire sortir, comme la loi de la pesanteur, qu'on soit chrétien ou pas, on est soumis à la loi de la pesanteur. On est tous soumis à la loi du péché. Mais c'est la loi de Christ en nous qui peut nous donner la victoire sur le péché. Alors j'aimerais peut-être donner rapidement quelques définitions. Par exemple, le stress, pour être simple, c'est une maladie de l'adaptation. Chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau dans notre vie, alors il y a un stress, que ce soit pour des bonnes choses, un mariage c'est un stress, ou que ce soit pour un enterrement, un divorce, tous les changements dans notre vie procurent, on doit pouvoir s'adapter, mais il y a des gens qui n'ont pas la même faculté d'adaptation que d'autres. On n'est pas tous égaux quand on est. Au niveau physique, il y en a qui naissent avec des tares physiques, génétiques. On n'est pas tous égaux au niveau des maladies mentales, parce qu'on parle de plus en plus de la génétique et des maladies mentales. On sait que certains chromosomes ou associations de chromosomes favorisent des terrains dépressifs ou des terrains psychotiques ou autres. On n'est pas tous égaux dans tous les niveaux, hein. Ça, je crois que c'est aussi important de savoir cela. Et alors, chaque fois qu'il y a des changements, on a besoin de s'adapter. Il y a des gens qui souffrent du stress quand il y a trop de bruit, mais il y a toujours le trop ou le pas assez, hein. Le silence complet est aussi stressant. La solitude est stressante, mais le trop de monde, c'est stressant aussi. Donc, la vie est un équilibre. La chimie, c'est un équilibre. La biologie, c'est un équilibre. Et dans notre sang, il y a des tas de composantes qui sont en équilibre. Toute la vie est un équilibre. Et le vrai équilibre, c'est Dieu qui peut nous le donner au niveau physique comme au niveau mental. Alors, pour expliquer un petit peu le stress, je reprends cette histoire qui est peut-être connue par vous. Je ne sais pas, c'est un professeur qui voulait expliquer la gestion du temps à ses élèves. Alors il a pris un gros panier et puis il a mis des gros cailloux dedans et puis il a dit « Mon panier est-il plein ?» Et les élèves ont dit « Oui, il est plein. » Alors après il a mis des petits graviers dedans. Puis il a dit « Est-ce qu'il est plein ?» Ils ont dit « Oui ». Puis après, il a encore mis du sable. Et puis, il a demandé aux élèves « Quelle est la morale de cette histoire ?» Et les élèves ont dit « On peut toujours ajouter un peu quelque chose dans notre programme. » Et il a dit « Vous n'avez rien compris. » Parce que l'enseignement important, c'est qu'il faut mettre les gros cailloux en premier. Parce que si votre panier est déjà plein de sable, et notre vie est souvent pleine de petites choses qui nous empoisonnent, qui nous embarrassent, on n'a plus de place pour les gros cailloux. Et c'est très important d'avoir des justes priorités. Et la priorité pour le chrétien, c'est de rechercher le contact avec Dieu. Je crois qu'on dit de Luther que quand il avait beaucoup de travail, beaucoup de stress dans sa vie, qu'au lieu de passer une heure à méditer la parole de Dieu et à prier, il devait passer deux heures. Parce que plus on est agité, plus il nous faut du temps pour entrer dans le repos de Dieu. Pour bien travailler, il faut avoir les bonnes chaussures, le zèle que donne l'évangile de paix. Donc c'est important de prendre du temps pour se ressourcer, d'avoir des bonnes priorités, pour chercher Dieu, pour mettre Dieu en premier dans sa vie. J'ai vu des gens au bord du suicide, dans la déprime, qui ne cherchaient plus Dieu. Il faut chercher Dieu et Dieu peut nous sortir. Parce qu'il y a des fois des clés que nous avons pour sortir de notre état, mais parfois c'est Dieu seul qui a la clé. Dans l'arche, c'est Dieu qui avait fermé la porte. Et Dieu a la clé, mais il faut le chercher. Le stress n'est pas forcément mauvais, hein. Il peut être positif ou négatif, comme le feu ou le soleil. Je disais, il peut faire du bien, il peut tuer aussi. Le stress peut être un moteur pour nous faire avancer, pour être créatif. Mais il peut être aussi destructeur, paralysant, nous pousser dans des mécanismes de fuite, d'indécision, d'évitement, dans des rituels comme dans les troubles obsessionnels, ou dans les rites, dans les phobies. On peut fuir dans toutes sortes de mécanismes mensongers qui se passent au niveau de notre cœur. J'ai dit, le stress est une maladie de l'adaptation et il y a des gens qui ont beaucoup plus de difficultés que d'autres à s'adapter aux changements dans la vie. Et donc ça c'est pour le stress, l'angoisse. Comme le stress peut être quelque chose de positif ou de négatif, Jésus nous dit que l'angoisse va augmenter dans les derniers temps sur la terre. Jésus lui-même a connu l'angoisse à Gethsémané. L'angoisse ne contient pas la vie, c'est en soi, elle est un mal. La racine du mot angoisse, c'est le mot angine, akko en grec, parce qu'on est serré à la gorge, hein, ou à l'estomac, on est comme oppressé. Et c'est aussi la même racine que agonie. Il y a des gens qui font des crises d'angoisse, de panique, qui appellent le médecin en pleine nuit, « Venez vite, je suis en train de mourir. » Et puis on parle 5 minutes avec eux, on les rassure un petit peu, ça va bien, et puis la crise est passée, et ils ne sont pas morts. Alors il y a, dans cette histoire d'angine, d'oppression, on peut y voir aussi la notion d'un vide intérieur, d'un manque, d'un sentiment d'absence, de frustration, un déséquilibre au niveau de nos besoins. Il y a toutes sortes de besoins, hein. Je disais tout à l'heure que Pascal disait qu'il y a un grand vide aussi qui a la forme de Dieu. On a besoin d'une communion avec Dieu, de chercher cette communion. L'angoisse, donc, c'est le déséquilibre au niveau de tous ces besoins, hein. Et les besoins de l'homme représentent un équilibre très délicat et je crois que Dieu seul peut nous donner cet équilibre. Il est dit que Dieu pourvoira à tous nos besoins en Jésus-Christ. C'est-à-dire, si on obéit à Christ, si on est en communion avec Jésus-Christ, il est capable de répondre à tous nos besoins. Hein. Vous connaissez la pyramide de Maslow avec les besoins physiques, les besoins affectifs, les besoins intellectuels, sociaux, religieux, spirituels. Il y a toutes sortes de besoins. Et Satan propose des réponses à l'homme. Il propose la convoitise à la place de l'amour véritable. Il propose la rébellion à la place de la soumission biblique, le mensonge à la place de la vérité, l'amertume à la place du pardon, la licence ou l'esclavage à la place de la liberté. On croit que la liberté, c'est faire tout ce qu'on a envie, tout ce qui nous passe par la tête, toutes nos pulsions, l'hyperactivisme ou la passivité qui font place à une activité équilibrée, l'ivresse. Les hommes cherchent les états seconds dans l'alcool, dans la musique, dans la méditation transcendantale, dans la sophrologie, dans beaucoup de choses. On cherche des états seconds au lieu de chercher l'adoration véritable de Dieu. Alors, beaucoup de philosophes ont donné des définitions à l'angoisse, mais je dirais que toutes leurs définitions, ça recoupe un peu ce besoin de Dieu. Platon a dit, c'est la crainte de passer à côté de la vérité, l'angoisse. Mais la vérité, c'est pas une philosophie. La vérité, Jésus a dit, je suis la vérité. Je suis venu pour vous montrer le cœur de Dieu. Je suis la vérité. La vérité, c'est passer à côté de la communion avec Dieu. Pascal a dit, c'est l'effroi face à la mort et à l'infini. Et Jésus dit, celui qui croit en moi, il vivra toujours, même s'il était mort. Jésus est la vie éternelle. Je ne vais pas vous citer toutes les définitions. Jeannet, un psychologue, dit que c'est une réaction d'échec, de passer à côté du plan de sa vie. Dieu a un plan pour votre vie et vous passez à côté. Échouer, en grec c'est amartema, c'est le même mot que le mot péché. Le péché, c'est passer à côté du plan de Dieu. Dieu a un plan dans le mariage et les hommes passent à côté. Des fois, ou dans la sexualité, il a créé la sexualité pour un but particulier, pour que ce soit un ciment aussi dans le mariage, et on passe à côté du plan de Dieu. Dieu a des plans pour votre vie. Dieu a créé toutes choses pour un but. Je dirais même que c'est lui qui a créé l'opium et le hashish. Je disais ça à mes drogués en prison, ils étaient tout contents. Mais je leur disais aussi, il l'a créé pour un but, mais pas pour le but de soulager vos problèmes. Vous ne pouvez pas régler vos problèmes avec de la drogue. Vous ne pouvez pas régler votre souffrance avec de la drogue. Ça ne suffit pas. Il a créé quand même ces molécules. Je remercie Dieu pour l'opium et pour tous les dérivés de l'opium qui permettent de soulager des douleurs horribles. Quelqu'un qui est en train de mourir d'un cancer du pancréas, qui a des douleurs terribles, si vous pouvez lui donner des doses qui soulagent, je crois que c'est une grâce de Dieu aussi. Comprenez ? Tout a été créé pour un but, mais pas pour n'importe quoi. Et souvent les hommes passent à côté du but. Et un père de la psychiatrie française, le professeur Sivadon, a dit que l'angoisse est une manière de réagir de quelqu'un qui n'a pas trouvé de refuge dans toutes les difficultés de la vie. On a besoin de refuge. Et quand les hommes se construisent eux-mêmes des refuges, ces refuges deviennent des prisons. On peut se réfugier dans l'alcool, on peut se réfugier dans le travail, on peut se réfugier dans l'argent. Mais ce sont des faux refuges qui deviennent des prisons, qui nous séparent les uns des autres et qui nous séparent de Dieu. Des paradis artificiels qui deviennent des enfers. Le vrai refuge, la Bible dit à de nombreuses reprises, surtout dans les psaumes, que Dieu est un refuge. Et dans le livre de Josué, au chapitre 20, il est question de 6 villes de refuge, et ces 6 villes ont des noms en hébreu qui nous parlent de ce que peut trouver dans la personne de Dieu. Je vous les cite simplement: Betser, qui signifie la sécurité, beaucoup de gens sont dans l'angoisse par manque de sécurité dans leur vie, par manque d'autorité dans leur vie. Parce que des parents qui aiment leurs enfants dans l'autorité et dans l'amour, c'est une sécurité pour l'enfant. Il y avait Ramot qui signifie élévation, et là j'ai pensé à la hauteur et à la profondeur de l'amour de Dieu. Ramot en Galade, le baume de l'amour de Dieu, le baume de Galade. Golan qui signifie la manifestation, la grâce de Dieu a été manifestée, Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ, il nous a fait connaître son intention de nous sauver, de nous délivrer, de nous guérir. Il a manifesté sa pensée, son intention dans la personne de Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, mais Jésus-Christ est celui qui l'a fait connaître. Et puis vous avez une ville qui s'appelle Kedesh, qui signifie sainteté. C'est le besoin fondamental. Notre problème, c'est le péché. C'est le péché qui nous sépare de Dieu. C'est le péché qui nous rend esclaves et malheureux, qui nous défigure comme la lèpre de l'Ancien Testament, qui nous paralyse comme la lèpre. Moi j'ai vu des lépreux quand j'ai travaillé en Afrique aussi pendant 19 mois. Il y a des paralysies faciales, des paralysies des doigts, ils ne sentent plus. Et c'est une image du péché dans la Bible. Le péché paralyse, le péché défigure. On n'a plus l'image de Dieu. Et c'est notre problème fondamental. Et puis vous avez Sichem qui parle de l'épaule. Et là j'ai pensé aussi au besoin d'être épaulé, le besoin de secours. Jésus lui-même nous a donné un exemple lorsqu'il portait sa croix et qu'elle était trop lourde, elle tombait, et puis il a dû être aidé par un Éthiopien qui passait par là, qui l'a aidé à porter sa croix. Et quand c'est trop difficile pour nous, la vie, on a besoin de s'épauler les uns les autres, comme je disais tout à l'heure, on a besoin de nous aider les uns les autres, on a besoin parfois de l'aide, de la relation d'aide des autres. Et la dernière ville, donc dans ces six villes, c'était Hébron, qui signifie la communion, la présence de Dieu avec nous, c'est un remède extraordinaire. Et cette ville Hébron s'appelait avant Kirjat Arba, qui signifie la ville du livre. On trouve cette communion avec Dieu aussi dans la méditation de la parole de Dieu. Quelques mots sur la dépression maintenant, qui représente un état encore plus grave que le stress ou l'angoisse, une déstructuration qui touche 6 à 12% des hommes et 12 à 20% des femmes au moins une fois dans leur existence, et qui augmente avec l'âge. Mais la dépression, elle peut toucher même un enfant. J'ai dit tout à l'heure qu'on est parfois responsable et parfois on est victime. Un enfant, un bébé peut être déprimé. Dans le temps, quand on abandonnait les enfants dans les hôpitaux, on appelait ça l'hospitalisme, et on voyait des enfants qui se laissaient mourir à l'hôpital, qui se balançaient dans leur lit comme ça toute la journée, qui ne mangeaient plus, qui ne buvaient plus et qui finissaient par mourir. Est-ce qu'un enfant est responsable? Je pense plutôt qu'il est victime. Et j'ai entendu un beau témoignage d'un pédiatre dans un congrès de l'Union médicale qui nous racontait qu'il avait rencontré un de ses enfants comme ça, c'était je crois avant la guerre, c'est une vieille histoire, et cet enfant, plusieurs médecins avaient dit, ben, c'est fini, il va mourir, il n'y a plus rien à faire pour lui, il ne mange plus, il se laisse mourir. Et ce pédiatre a été voir les parents, il s'est levé très tôt un matin, il a été voir les parents, et il leur a, dans la conversation, il leur demande, sans trop savoir pourquoi, il leur demande, comment ça va dans votre couple? Et puis ses parents ont commencé à ouvrir leur cœur, ce qui ne se faisait pas trop dans le temps. Et le mari vivait dans l'adultère, il avait une liaison avec sa secrétaire. La femme le savait, elle laissait les choses aller. Et puis tout à coup le mari dit, est-ce que vous croyez qu'il y a une relation entre mon enfant, notre enfant qui est en train de mourir, et notre couple qui est en train de mourir aussi? Et puis ce médecin a dit, vous savez, moi je ne suis pas Dieu pour vous le dire, mais ce que je vous conseille, c'est de mettre votre vie en harmonie avec l'enseignement de la parole de Dieu. Et cet homme, il a été voir sa secrétaire, il a rompu toute relation avec elle, et le soir même, l'enfant était guéri. Un enfant de 9 mois. Un enfant de 9 mois, il ne peut pas verbaliser, il exprime avec son corps ce qu'il ressent dans la famille. Et il ressentait certainement un climat d'anxiété, un climat de mort, un climat qui était de conflit, peut-être, je ne sais pas. Mais les enfants, plus ils sont petits, moins ils peuvent exprimer, verbaliser les choses, plus ils l'expriment avec des troubles somatiques, c'est-à-dire une crise d'asthme ou des allergies ou des... ils font pipi au lit ou des choses comme ça, des cauchemars. Hein. Je voyais une fois une dame qui m'amenait son enfant pour me parler de ses cauchemars. Je lui ai demandé comment elle l'élevait, comment ça se passait avec lui. Il me dit, mais je suis très gentil, il fait tout ce qu'il veut. Ah ben... J'ai dit, c'est peut-être pour ça qu'il fait des cauchemars, parce qu'un enfant, il a besoin d'une autorité sur lui. Il a besoin d'une autorité, mais il n'a pas besoin d'être surprotégé. Parce que si on surprotège trop les enfants, après ils grandissent avec cette idée qu'ils ne sont pas capables eux-mêmes. Si c'est maman ou papa qui fait tout pour eux, c'est qu'eux sont des incapables. Il faut les faire grandir vers la maturité. Donc vous voyez, puis plus on devient âgé, plus le taux de dépression augmente, plus on est fragile, plus des événements traumatisants ont tendance à s'accumuler dans la vie des gens. Alors il y a des dépressions qui sont réactionnelles suite à des chocs psychologiques. C'est parfois aussi des facteurs déclenchants, des deuils, des divorces, des injustices, des emprisonnements, des échecs, des rejets, des persécutions. Tout ça, ça peut créer des états dépressifs. Il y a aussi des dépressions d'épuisement suite au surmenage physique ou mental. Des dépressions névrotiques là, qui sont plus dues à des problème d'éducation, des personnalités immatures, des narcissiques, c'est-à-dire centrées trop sur elles-mêmes, des traumatismes de l'enfance, des deuils parentaux précoces, des abandons, des violences, des abus, des rejets. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants qui souffrent, hein, de parents trop stricts, trop légalistes, perfectionnistes, autoritaires, qui utilisent la contrainte, ou au contraire, comme je vous le disais, trop laxistes, qui laissent tout faire à leurs enfants, ou qui les protègent trop. Donc ça, c'est des dépressions, ça va créer des névroses, des enfants pas matures. Il y a aussi des facteurs hormonaux. On sait que dans le cerveau, il y a toutes sortes de substances, et quand on vous donne un antidépresseur, on vous donne des médicaments pour recharger les neurones en sérotonine, en noradrénaline, en dopamine, etc. Donc il y a toutes sortes de facteurs, même on parle des facteurs saisonniers, comme les TAS, les troubles affectifs saisonniers, parce que quand il n'y a pas assez de soleil, on ne sécrète pas assez de mélatonine, qui colore la peau, hein, et puis la mélatonine, c'est un précurseur de tous ces neuromédiateurs dont je viens de parler, la sérotonine, la noradrénaline, tout ça, c'est des dérivés de la mélatonine. Donc il y a aussi des facteurs familiaux, héréditaires, je l'ai dit aussi tout à l'heure, hein, comme dans la dépression bipolaire. Donc selon notre terrain, selon notre éducation, selon les chocs de la vie, alors... il va peut-être se développer un trouble mental dans notre vie. Mais même il y a aussi des aspects somatiques, des dépressions somatogènes. Hein. Certaines tumeurs, si vous stimulez certaines zones de votre cerveau, vous pouvez déclencher des états dépressifs. Hein. Certaines tumeurs, certains accidents vasculaires cérébraux, certains cancers, maladies endocriniennes, certains médicaments sont dépresseurs du système nerveux central et favorisent aussi les dépressions. Alors, je vais passer là-dessus pour pas que vous repartiez tout déprimé et parler d'un point de vue.
Oui. Quels sont les médicaments qui pourraient favoriser les
dépressions ? Certains médicaments, comme le catapressan qu'on donnait pour la tension dans le temps, étaient un peu dépresseurs du système nerveux. Mais je ne les connais pas tous, les médicaments, mais il faut toujours lire un peu les notices, mais pas trop les lire non plus, parce qu'on se trouve toutes les maladies quand on lit les notices des médicaments. Hein. Alors, d'un point de vue biblique, je crois que c'est important de faire cette distinction entre l'âme et l'esprit. Hébreux 4:12, la parole de Dieu sépare l'âme et l'esprit, jointure et moelle. L'âme est comparée à une articulation. Les maladies psychiques, les maladies de l'âme, ce sont des maladies psychiques. C'est une articulation, l'âme, entre le monde matériel et le monde spirituel. Il y a des aspects matériels, organiques, comme je disais, par exemple, certaines baisses en sérotonine va favoriser la dépression, ou un orage de dopamine va créer des délires dans votre tête. Donc il y a des aspects organiques, toutes vos émotions, vos humeurs ont des supports organiques. Donc c'est un aspect, l'âme c'est une jointure, une articulation entre le monde matériel et le monde spirituel. Mais aucun médicament va donner le sens à votre vie. Aucun médicament va vous donner de pardonner à quelqu'un qui vous a blessé profondément. Aucun médicament ne peut résoudre tous vos problèmes de vie. Vous comprenez ? Dans les aspects, c'est pour cela que quand on s'occupe de dépression, il faut en même temps soigner le terrain physique, donner des fois des médicaments pendant plusieurs mois. On dit 6 mois pour une dépression réactionnelle, mais pour d'autres c'est souvent des années. Et puis en même temps essayer de voir les causes spirituelles, les attaques même diaboliques qu'il peut y avoir dans la vie du chrétien. Il y a toutes sortes de causes spirituelles. Pour vous montrer, vous expliquer cette différence entre l'âme et l'esprit, je dirais l'âme, c'est comme un train avec la volonté, l'intelligence, les sentiments. Hein, puis le train doit aller du bon côté, c'est pas les sentiments qui entraînent la volonté, mais la volonté qui conduit aux sentiments. Et ça nous permet de communiquer au niveau horizontal, alors que l'esprit a les mêmes capacités, mais au niveau vertical. Il y a des sentiments spirituels, il y a des émotions spirituelles, il y a une autorité, une volonté spirituelle qui vient de Dieu. Et c'est très important de bien saisir ça, parce que je donne aussi cet exemple d'un ami qui avait voulu parler avec un homme qui avait un cancer de la prostate et qui devait être opéré, un homme de 80 ans. Et cet homme, cet ami anesthésiste a parlé avec lui, il était athée, il voulait rien savoir de Dieu, il n'était pas du tout intéressé. Et pendant son opération, il a fait un arrêt cardio-circulatoire de plus de 3 minutes. Et tous les médecins, les infirmiers, tous ceux qui étaient là ont dit: cet homme, ben, il est mort, c'est plus la peine de le réanimer. Et cet ami chrétien, il intercédait, il priait pour cet homme, parce qu'il disait, cet homme, il ne connaît pas Dieu. Et il a intercédé pour lui, et puis il a fait aussi tous les gestes de réanimation pour essayer de réanimer. Et grâce à Dieu, puis grâce aussi un peu à la médecine, hein, il est revenu à la vie. Et une des premières choses qu'il a dites, il a dit: maintenant, je suis croyant, je suis chrétien. Parce que je me suis vu devant un tribunal, j'étais à la place de l'accusé, je voyais tous les gens qui me condamnaient à mort. Mais j'ai vu une personne qui plaidait ma cause. Vous voyez ce que c'est que l'esprit. Cet ami-là, il ne pouvait pas communiquer avec lui. Il ne pouvait pas lui expliquer en trois points et trois sous-points le chemin pour être sauvé. Mais il intercédait pour lui et cet homme a été touché par Dieu. Et Dieu l'a éclairé. Je crois que c'est ça là. Il y a parfois on argumente, on essaie de parler, d'expliquer, de convaincre les gens comme si c'était nous qui pouvions sauver les gens. Et je crois qu'il faut qu'on réalise parfois que les portes sont fermées, qu'on ne peut pas communiquer, mais on peut prier et Dieu peut toucher. Et quand les gens sont dans des états de folie, dans des états d'ivresse, dans des états de démence, on ne peut souvent pas tellement parler avec eux, mais on peut prier pour eux. Moi j'ai vu des gens touchés par Dieu dans des états comme ça, dans des états de folie, qui ne me connaissaient pas, qui m'ont dit « vous êtes un envoyé de Dieu ». Qui était touché par la grâce de Dieu. Je crois que c'est ça qui est extraordinaire, hein, de bien saisir que derrière bien des problèmes mentaux, le problème n'est pas au niveau horizontal, il se trouve au niveau spirituel. Derrière le mensonge, il y a le menteur qui trompe les gens, qui leur dit « tu es un incapable, tu vaux rien, tu n'as pas de valeur ». Ta vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Ça, il y a un combat spirituel aussi à mener. Il y a des médicaments à prendre parfois, puis il y a parfois aussi les deux ensemble. Il faut prier, intercéder. Et je pense que ça donne un sens aussi à une différence entre les soignants chrétiens et les soignants non chrétiens. Un soignant non chrétien peut communiquer au niveau horizontal et c'est fini. Mais nous, en tant que chrétiens, même si quelqu'un est mourant, qu'on ne peut plus communiquer, même si quelqu'un est complètement dans une démence sénile, on peut prier pour cette personne. Et Dieu, je crois, touche encore des gens. Tant qu'il y a de la vie, Dieu peut toucher des gens. Je crois, vous comprenez l'importance de cette dimension en tant que chrétien. Nous croyons qu'il y a un Dieu qui peut parler au cœur jusqu'à la dernière seconde de la vie des gens. Et notre vision de Dieu, elle se situe au niveau spirituel. J'ai dit tout à l'heure, on peut savoir dans sa tête que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Mais il faut réaliser dans son cœur, s'il y a un sauveur, c'est que je suis perdu. J'ai un Père qui est là, qui m'aime. J'ai un consolateur qui est avec moi tous les jours. Et alors, si vous voyez, la première fois où le mot peur est venu dans la Bible, c'est Genèse chapitre 3, quand l'homme a écouté le menteur, Satan, qui est venu vers Adam et Ève, il a écouté. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, est-ce que Dieu a vraiment dit? J'ai jamais entendu cette voix. Est-ce que Dieu, la voix du doute et de l'incrédulité? J'ai dit qu'il y a des doutes que Dieu accepte, mais il y a aussi une incrédulité qui n'est pas bonne. Hein. Est-ce que Dieu a dit? Est-ce que Dieu a dit que je peux être pardonné? Est-ce que Dieu a dit il peut changer ma vie? Moi, je ne peux pas changer ma vie. Mais est-ce que Dieu peut encore changer ma vie? Ça, c'est important de croire. Jésus dit, si tu crois dans ton cœur, pas seulement au niveau de l'âme, mais au niveau du plus profond de ton cœur, si tu crois vraiment que Dieu peut changer ta vie, alors il peut encore intervenir dans ta vie. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Satan, c'est la voix de l'incrédulité. Il venait vers Jésus et puis il lui disait, il est écrit, hein, si, les si. Si tu es le Fils de Dieu, tu peux sauter du haut du temple, les anges vont te garder. Ils citaient même la Bible, et Satan peut vous citer la Bible. Et puis, toujours cette voix du doute qui est là, et qui est une voix de destruction. Le menteur et les mensonges dans notre cœur produisent la destruction et la maladie. Derrière bien des troubles mentaux, il n'y a pas seulement une question physique, il peut y avoir ça, mais il peut aussi y avoir des questions spirituelles, où on écoute la voix du menteur. On croit à un mensonge. Dans les troubles obsessionnels, par exemple, on croit des demi-vérités, on croit que tout est souillé autour de nous, et intellectuellement on sait que notre comportement est faux, et il est faux dans les, aussi dans les phobies, on a des peurs irraisonnées, c'est complètement absurde, mais on ne peut pas faire autrement parce que notre cœur nous a séduits quelque part. On croit un mensonge, et c'est important dans la relation d'aide de voir clair. Jésus a dit « La vérité vous affranchira », de voir clair sur ses vrais problèmes, sur ses vrais mensonges, et de confesser la vérité de Dieu. La relation d'aide consiste à stimuler la foi en Dieu et en sa parole. Nous sommes enfants de Dieu créés à son image. Dieu veut nous pardonner, Dieu veut nous restaurer. Et la deuxième racine de destruction que Satan sème dans le cœur d'Adam et Ève, c'est l'orgueil. Il leur dit, vous serez vous-même comme des dieux, connaissant le bien et le mal. C'est vous qui allez décider, vous êtes des dieux maintenant. Avec le clonage, vous allez faire des choses extraordinaires. Avec les manipulations génétiques, vous allez décider de la vie d'un enfant ou pas. Vous allez décider de la mort d'un vieillard ou pas. Vous êtes des dieux. Cette voix-là, on l'entend encore beaucoup aujourd'hui. Nous ne sommes pas dieux, nous sommes des hommes. Nous devons nous soumettre à l'autorité, à la volonté de Dieu. Et alors, dans la Bible aussi, que je développe beaucoup dans mon livre « Angoisse et foi », le psaume 107, qui montre des causes spirituelles de l'angoisse. Ce psaume, d'ailleurs, il commence par louer l'Éternel. Ne regardez pas à vous-même, ne regardez pas à vos mensonges, regardez par la lucarne, voyez qu'il y a un Dieu qui règne. C'est pas vous qui décidez de ce qui est vrai et de ce qui est faux, c'est Dieu qui décide. C'est pas vous qui décidez de la vie et de la mort, c'est lui qui décide. C'est un repos de la foi. Pour vous qui croyez, dit l'apôtre, je pense que c'est l'apôtre Paul, mais c'est pas sûr, c'est l'auteur de l'épître aux Hébreux, pour vous qui croyez, vous entrez dans le repos. C'est un repos de se réfugier en Dieu. Alors, dans ce psaume 107, il nous dit « Regardez vers Dieu ». La première parole, « Louez l'Éternel ». Et puis, la dernière parole, c'est pas seulement « Soyez attentifs aux causes de vos angoisses et de vos problèmes », mais il dit « Soyez attentifs à la bonté de l'Éternel ». Et c'est pour ça que demain, je voudrais surtout parler, non pas du point de vue de l'homme, mais du point de vue de Dieu concernant la souffrance, concernant l'angoisse, concernant tout cela. Et alors dans ce psaume, il est dit « Quatre fois dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. » Et vous avez des causes différentes, et je disais tout à l'heure que ça m'a beaucoup aidé d'avoir ce schéma quand j'interrogeais des malades qui venaient avec des troubles mentaux pour essayer de comprendre leur parcours, leur cheminement. La première, c'est « Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude ». Une des premières causes d'angoisse, c'est ce sentiment de rejet, ce sentiment d'abandon, ce sentiment de solitude, ces difficultés de communication. Tout cela, c'est très important et c'est des choses qui remontent parfois à l'enfance. Il y a des expériences qui ont été faites chez des singes qu'on a isolés de leurs congénères. Et s'ils étaient isolés 3 mois, ils avaient des troubles du comportement qui pouvaient être encore un peu récupérés. Mais si cet isolement durait plus de 6 mois ou 6 mois, ils avaient des troubles du comportement qui étaient irrécupérables. Donc ça montre bien l'importance. On a été créé pour vivre en relation. On a besoin de communiquer les uns avec les autres, d'être en relation. Hein. Et si vous prenez une cellule que vous, du corps humain, une cellule par exemple hépatique que vous cultivez dans une boîte hors de sa place, elle va perdre son identité, elle va se dédifférencier. Et vous la remettez à sa place, dans le corps, elle va retrouver son identité. C'est pour ça qu'il y a des cellules souches, selon les places où vous les mettez, elles vont donner des cellules cardiaques, d'autres des cellules pulmonaires ou rénales ou hépatiques. Mais on a été créé pour être à une place particulière, en relation, dans la société, dans la famille et dans l'église aussi. Et je crois que toute relation fausse crée des troubles psychiques chez l'homme. Et Dieu en horreur toutes les relations fausses. C'est pour ça que l'adultère, l'homosexualité sont condamnés dans la Bible. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons un Dieu vivant, un Dieu qui peut parler. J'ai vu des gens en prison qui ont été touchés par Dieu. Dieu leur a parlé par la parole, de manière des fois assez spéciale. Un Dieu qui délivre. Je me souviens d'un garçon en prison qui faisait des cauchemars. Toutes les nuits, il rêvait de pendus. Il était très dépressif. Et il me disait, quand je me réveille dans mon cauchemar, je vois, parce que je vois mon visage dans le pendu. Et il m'a dit, on avait le psychiatre et moi-même, on avait essayé de lui donner des traitements et rien n'y faisait. Et il me dit un jour, mais y a-t-il pas d'autre solution pour moi ? Alors je lui ai dit, je vais vous dire moi ce que je pense. C'est que vous lirez dans Jean au chapitre 10, il y a quelqu'un qui veut votre peau. Satan est venu pour égorger et détruire les hommes. Il est venu pour détruire les couples. Il est venu pour détruire nos vies. Il est venu pour détruire l'amour, détruire la liberté, détruire la justice, détruire la vérité. Satan est venu pour... Il veut ta peau. Mais Jésus est venu afin que vous ayez la vie. Et la vie en abondance. Alors je lui ai dit, c'était pas un chrétien ce garçon. J'ai dit, si tu as ton cauchemar, la prochaine nuit, tu cries au Seigneur Jésus. Tu dis, Jésus, viens me sauver, viens m'aider. Et la semaine après, il est venu, il m'a dit, j'ai fait ce que vous m'avez dit, et j'ai plus de cauchemar. Vous voyez, c'est important de dire aux gens qu'il y a un Dieu vivant qui peut répondre à la prière, qui peut changer les motivations des gens. J'ai vu en prison un garçon à qui j'avais donné un Nouveau Testament. 6 mois après, il m'a dit, je le lis tous les matins et tous les soirs pendant 2 heures. Et j'ai envie de changer de vie. J'ai envie de faire des choses bien quand je sortirai de prison. Il était après dans une centrale. Il m'a dit, j'ai envie d'être baptisé. Je lui ai jamais parlé du baptême, mais j'ai envie de m'occuper de personnes âgées, de faire des choses pour mon prochain. Dieu avait changé ses motivations. Dieu peut changer des vies complètement par une nouvelle naissance. Je me souviens, mes parents qui avaient travaillé au bagne en Guyane avaient la photo d'un homme avant sa conversion et quelques années après. Et il me racontait l'histoire que cet homme, il avait été avec sa première photo à la caisse d'épargne ou à la poste chercher de l'argent. Et quand ils ont vu sa tête, ils ont dit, ben, c'est pas la même personne. Dieu peut changer le physique des gens. C'est extraordinaire. Dieu est celui qui pourvoit. Nous ne sommes pas seuls. Il y a un Dieu qui entend la prière. Quand ils étaient au bagne, les parents m'ont raconté aussi qu'un jour ils n'avaient plus de lait et le prochain bateau devait venir 1 mois après. Et puis il n'y avait plus de lait pour nourrir mon frère qui était né là-bas. Et ils ont prié et ils avaient à peine fini de prier qu'un bateau arrivait. Et dans ce bateau, il y avait un colis avec juste le nombre de boîtes de lait qu'il fallait pour lui. Qu'il ne venait jamais d'habitude. Et puis, ils ont reçu une lettre d'une dame de la Bretagne, quelques semaines après, je crois, qui leur disait « J'ai été réveillé une nuit et le Seigneur m'avait mis à cœur de vous en... » Elle ne les connaissait même pas. Mais le Seigneur lui avait mis à cœur d'envoyer du lait pour ses missionnaires. Elle en avait entendu parler, puis elle avait à cœur d'envoyer du lait. Et c'est arrivé juste au moment voulu. On a un Dieu vivant, un Dieu qui pourvoit. Un Dieu qui délivre, un Dieu qui sauve ceux qui sont perdus. Voilà la première cause d'angoisse, ce sentiment de solitude. Et Dieu peut combler ce sentiment de solitude. Le deuxième, il a dit, il s'était révolté. Alors on ne peut pas être en paix et en révolte en même temps. On se révolte contre les épreuves, on se révolte contre son conjoint, ses enfants, ses parents, son patron, son physique, son caractère. Vous savez, j'étais en Afrique, là-bas les noirs ils veulent être blancs, et puis les blancs ici ils veulent être bronzés. Hein? On n'est jamais content, les petits voudraient être grands et les grands ils voudraient être un peu plus petits. Et on ne peut pas, Dieu nous demande d'accepter la réalité dans laquelle on est, de lui faire confiance, de croire que c'est lui qui règne, qui contrôle toutes choses. Arrêtez de se révolter contre les autres, contre Dieu, contre soi-même, et apprendre à se soumettre à Dieu, à se soumettre aux autorités, c'est aussi un facteur de guérison. Vous savez, sur la croix de chaque côté de Jésus, il y avait deux brigands. Il y en a un qui a dit « C'est justice ce qui m'arrive ». Il n'a pas dit « C'est la faute à mes parents ». Il n'avait pas fait de la psychanalyse pour accuser quelqu'un d'autre. Il a dit « C'est justice, j'ai ce qu'a mérité mon crime, mais souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume ». Il a cru... Il a reconnu qu'il était perdu et il a cru que Jésus était roi. Et l'autre qui est resté dans la perdition, ça représente l'humanité, ces deux brigands. L'autre, il a dit, mais, si tu étais Dieu, vous voyez toujours le si du doute de Satan, si tu étais Dieu, tu nous ferais descendre de là. Et puis, il se révoltait, il se moquait de Jésus. La révolte. Puis, il y a un autre aspect dans ce psaume 107, c'est la culpabilité. Je parlais du problème fondamental de l'homme. Il y a bien sûr des fausses culpabilités. On dit que de Jean-Jacques Rousseau qu'il se culpabilisait d'avoir volé un ruban à sa maîtresse. Et il ne s'est jamais culpabilisé d'avoir une maîtresse. Vous voyez, c'est ça le... La fausse culpabilité. Hein. Souvent, on exagère des choses minimes et on ne voit pas les choses importantes. Jésus dit, vous donnez la dîme du cumin et de la menthe et vous avalez le chameau. Dieu nous demande de voir clair sur notre vraie culpabilité. De voir clair au niveau de notre cœur. Sur les mensonges que Satan a mis dans notre cœur. C'est un père de l'Église qui s'appelait Bernard qui a dit « La connaissance de soi sans la connaissance de Dieu produit le désespoir. » Il y a des gens qui ont analysé, qui ont fait de la psychologie pendant des années. Ils connaissent l'homme, mais ils ne connaissent pas Dieu et ils sont toujours dans leur désespoir. Et il dit, la connaissance de Dieu, sans la connaissance de soi, produit l'orgueil. Peut-être vous dites, moi j'ai fait 20 ans de théologie, mais vous n'avez pas conscience que vous avez besoin du Sauveur. Vous n'avez pas conscience que vous avez besoin de consolation. Vous comprenez? La connaissance de Dieu, elle peut, mais si on n'a pas conscience de soi-même. Dans la Bible, vous avez des hommes qui rencontrent Dieu, souvent, ils sont convaincus de péché. Il dit Ésaïe, par exemple, il voit Dieu dans son temple, qui remplit le temple de sa gloire, et il dit « Malheur à moi, mes lèvres sont impures ». Vous avez Moïse qui rencontre Dieu, et puis il dit « Qui suis-je ?» Il se pose la question, est-ce que je suis un enfant adopté? Est-ce que je suis un Égyptien? Est-ce que je suis un Madianite? Est-ce que je suis un Hébreu? Il ne savait plus qui il était. Il se sentait perdu. Donc il y a toujours cette révélation de Dieu et cette révélation de soi-même qui marche de pair. Dieu nous demande de voir clair. De voir clair sur nos péchés. Souvent, les gens construisent des murailles autour de leur cœur, le siège de l'amour, le siège de la foi, le siège de la volonté. Ils ont construit des murailles pour se protéger et on s'entoure de murailles de protection. L'apôtre Paul parle de forteresse, de raisonnement. J'ai vu des gens qui tombaient dans la paranoïa. Tout le monde était coupable, sauf eux. Et ils voyaient des micros partout, ils entendaient des voix qui les accusaient. Ils étaient tombés dans la paranoïa parce qu'ils avaient caché à eux-mêmes ce qu'il y avait au fond de leur propre cœur. Dieu nous demande de nous repentir s'il y a des choses qui ne vont pas tout au fond de notre cœur. Il y a une tristesse. Selon le monde, dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 7, qui conduit à la mort, au suicide, à cause de la culpabilité, de la frustration, de l'accusation. Mais sachez que derrière les accusations, il y a souvent l'accusateur. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous accuse. Il y a une tristesse qui conduit à la mort et il y a une tristesse, selon Dieu, qui conduit à un changement de vie, de nos motivations, de nos pensées, et une tristesse qui produit la vie. Le mot hébreu pour repentance, ça signifie soulagement. Comme on vide un sac de linge sale devant lui, on reconnaît ce qu'il y a au fond de son cœur et on apporte tout cela à Dieu. Et j'ai vu une fois un garçon qui était prêt à être hospitalisé en psychiatrie, qui est venu à une de nos réunions de prière, et puis il a demandé qu'on pratique l'onction d'huile pour lui. Alors, j'avais encore jamais fait ça, je ne savais pas trop comment il fallait faire, mais on a lu la parole de Dieu qui parle de cela dans Jacques au chapitre 5, et puis j'ai dit, on va confesser nos péchés avant toute chose, avant de faire un acte symbolique. Ce qui est important, c'est de confesser vos péchés les uns aux autres. Et moi, je me souviens que j'avais dit à Dieu, je te demande pardon, parce que je doute que tu puisses délivrer ce garçon ce soir. Et puis, il a ouvert son cœur, il a tout dit ce qu'il avait dans son cœur. On était en petit comité comme ça. Et puis après, j'ai été chercher de l'huile à la cuisine. On lui a mis un peu d'huile sur la tête au nom du Seigneur Jésus. Et instantanément, cet homme a été rempli du Saint-Esprit. Il était plein de louanges, plein de joie. C'était vraiment quelque chose. Tout le monde a remarqué un changement immédiat. Mais bon, souvent, ce n'est pas un changement immédiat. C'est souvent tout un cheminement, hein, la guérison. Donc, Dieu nous appelle à apporter nos péchés, à apporter notre nature pécheresse. Parce que vous pouvez prêcher tous les dimanches à un arbre sauvage, vous pouvez lui mettre des fruits en plastique, ou vous pouvez lui prêcher comment il va faire des bons fruits, et il n'emportera jamais de bons fruits. On va arracher les mauvais fruits, et à chaque saison, il va repousser des bons fruits. Ça, c'est notre nature pécheresse. C'est comme un litre d'eau, il y a un petit peu de poison, on ne peut pas dire on va améliorer ce litre-là, il faut qu'il soit jeté. Et notre vie naturelle, elle a besoin d'être crucifiée, que nous puissions la considérer comme crucifiée avec Christ, ressuscitée avec lui. C'est ça l'évangile. Tozer a écrit « Le chrétien victorieux n'est pas celui qui se vante ou qui se méprise, il ne s'intéresse plus à lui-même, mais à Christ. Il n'est plus préoccupé de ce qu'il est ou de ce qu'il n'est pas. Il croit qu'il a été crucifié avec Christ. Il ne désire ni exalter, ni déprécier l'homme qu'il est devenu. » Il prend conscience de sa condition, il prend conscience de la grâce de Dieu. Dieu nous appelle à lui faire confiance. Et puis la dernière, le dernier chapitre dans ce psaume 107, je passe assez brièvement, ce sont toutes les tempêtes de la vie. Il y a des situations dans notre vie qui créent des tempêtes et des blessures. Il y a parfois des blessures qui sont aiguës, évidentes, comme un divorce, comme un deuil, comme un emprisonnement. Et il y a aussi des blessures qui sont plus sournoises, plus chroniques, des paroles négatives, des critiques, de la jalousie, de l'incompréhension, des frustrations. Et pour moi, ce que j'ai découvert dans la Bible, c'est que Dieu guérit pas tellement les blessures, c'est qu'il guérit les cœurs brisés. Il y a une différence entre un cœur brisé et un cœur blessé. Un cœur blessé, c'est un cœur qui compte sur ses propres armes, sur sa colère, sur ses crises de larmes. Il compte sur sa vengeance, il a de l'amertume, de l'animosité. Et l'apôtre Paul dit que tout cela disparaisse du milieu de vous. Alors qu'un cœur brisé, c'est un cœur qui a accepté ce principe de la croix, sur sa nature pécheresse, sur sa volonté, qui fait confiance à Dieu et à l'amour de Dieu. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, il est dit « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés. Laissez agir la colère de Dieu. » Relisez la parabole des 10 000 talents. 10 000 talents, en comptant qu'on gagnait un denier par jour, ça correspondrait à 1265 ans de travail. C'est une dette que vous ne pouvez pas payer. Et cet homme qui devait 10 000 talents est gracié. Dieu vous a fait grâce pour vos péchés. Quiconque croit, même le dernier des brigands, quiconque croit peut être gracié. C'est une bonne nouvelle extraordinaire, ça, hein. Et cet homme qui est gracié, il rencontre un autre qui lui doit 100 deniers. Vous avez déjà eu quelqu'un qui vous devait 100 jours de travail et plus de 3 mois de salaire, hein. Ça fait déjà pas mal. Et il veut absolument le faire payer pour sa dette. Et puis la parabole se termine en disant que si Dieu nous a fait grâce, on doit aussi faire grâce aux autres. Et que si on ne pardonne pas de tout son cœur, Dieu va nous livrer aux bourreaux. Les bourreaux, c'est ceux qui conduisent dans la mort. C'est ceux qui conduisent dans le tourment, dans l'esclavage. Voilà ce que dit la Bible. Et je raconte des fois aussi cette histoire d'un homme, enfin d'une femme qui devait aussi être hospitalisée en psychiatrie, qui était dépressive depuis plus de 15 ans. Parce que son mari l'avait quitté, lui avait pris tout son argent, lui avait fait beaucoup de mal, et puis elle était aussi prête à entrer de nouveau à l'hôpital. Et un serviteur de Dieu a été la voir, et lui a dit, voilà, j'ai deux questions à te poser. Est-ce qu'avec l'aide du Saint-Esprit, tu es prêt à pardonner de tout ton cœur ton mari? Et cette femme, c'était une lutte pour qu'elle puisse dire honnêtement, oui, avec l'aide de Dieu, je pardonne. J'abandonne mon amertume à Dieu, j'abandonne ma révolte. Et puis la deuxième chose, il a dit, est-ce que tu es prêt à abandonner même tout l'argent qui t'a volé? Et puis ne plus parler de cela. Et c'était aussi une lutte terrible, parce que l'argent, ça tient beaucoup le cœur des gens. Et après avoir fait ça, elle a été guérie. Elle n'a pas eu besoin d'aller à l'hôpital. Elle n'est plus jamais retombée dans sa déprime. Et ce qui est extraordinaire, c'est que peu de temps après, son mari est revenu dans la repentance. et il a ramené aussi de l'argent. Vous voyez comment, si parfois nous laissions Dieu combattre pour nous, plutôt que de combattre avec nos propres armes, on utilise les armes de la chair plutôt que les armes de Dieu. Il y a aussi beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc, dans tous les troubles mentaux, je pense qu'il ne faut pas négliger les traitements médicaux. Tous les médicaments sont des grâces de Dieu qui peuvent aider quelqu'un à remonter plus vite la pente, à recharger les batteries. Il ne faut pas négliger non plus une relation d'aide, je dirais, chrétienne, qui aide les gens à voir clair sur leurs vrais problèmes et qui les aide aussi à se confier en Dieu. Et c'est important aussi qu'il y ait une alliance pour une pleine guérison, un plein salut, qu'il y ait une alliance entre l'homme et Dieu. Que les hommes puissent déposer leurs propres armes et recevoir les armes de Dieu, l'arme de l'amour, l'arme de la vérité, l'arme du pardon. C'est une force extraordinaire. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, dit l'apôtre Paul. C'est ça, une alliance. Dans l'ancien temps, on échangeait les armes, on échangeait même le sang, et Dieu nous dit: donne-moi ta vie, donne-moi ton corps, donne-moi tout ce que tu es, et moi je veux te donner ma vie. Il y avait un échange parfois de vêtements aussi. Dieu nous dit: donne-moi ton vêtement de plainte, de murmure, donne-moi ton habit de propre justice, et moi je vais te donner ma justice, je vais te donner ma louange, je vais te donner un esprit de victoire et de louange. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que je ne vous ai pas trop fatigué. On continuera encore un peu demain de parler de l'importance de voir clair, pas seulement sur nous-mêmes, mais sur qui est Dieu. Parce que Dieu veut nous transformer à son image.